Parfait. C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et j'ai le plaisir ce matin d'être accompagné de Monsieur Camille Poignant.
Salut Thibaut, salut tout le monde. J'espère que le week-end fut bon et qu'il y a grand beau dans le métaverse.
Camille Poignant, tout de jaune moutarde vêtu
oui,
ce matin.
Pour le retour du soleil.
Ouais, et ben t'es beau, voilà, je te le dis, bah, je te le glisse comme ça.
Bah toi aussi, t'es très beau, Thibaut.
Bah, merci.
Thibaut.
Il se passe quelque chose. Allez, est-ce que tu veux commencer?
Je veux bien commencer, si tu veux. J'ai une news. On va parler fringues ce matin. Voilà, je vais te parler de Zara. Zara, qui est déjà lancée dans le métaverse, hein, qui avait annoncé la création d'une boutique virtuelle il y a quelques temps. Mais là, cette fois-ci, le groupe Zara continue donc son exploration du métaverse avec le lancement de sa première collection en solo, pas de collab, création 100% Zara. La collection baptisée Line Glam, une ligne glamour, a été conçue pour exister à la fois online et offline. Elle s'inspire de lignes psychédéliques et futuristes. On est un peu dans un festival techno, on va dire. Sur le site Zara, la collection Lime Glam est présentée sous forme d'objets digitaux qui renvoient vers les vraies pages produits où tu peux les acheter. Et quand tu les regardes, c'est assez marrant. Il y a des visuels qui ont été shootés un peu en 3D comme on peut retrouver sur des sites, mais il y a un espèce de grain un petit peu pixel qui a été rajouté, je trouve. Et les vraies photos, on a vraiment l'impression que c'est des objets du métaverse. La collection, elle est composée de fringues, d'accessoires, de make-up, et elle est complétée dans le métaverse par un photobooth et une piste de danse. Génial. On peut retrouver... C'est incroyable. Non, je trouvais ça cool, hein, parce qu'il y a de plus en plus de choses quand même qui se passent dans le métaverse. C'est intéressant de le pointer de temps en temps. On peut retrouver ce monde virtuel Zara, hein, dans l'application Zepeto, qui fonctionne comme un Roblox. Et ça m'a amené à me poser une question. Je me suis dit, Zepeto, Roblox, il y a Horizon chez Facebook.
Ouais, bien sûr.
Est-ce qu'un jour, tout ça, ça va se connecter? Est-ce que tous ces applis vont permettre d'arriver au même monde? Les mondes, ils ont visuellement pas la même gueule. Là, on est plus sur un truc un peu tiré manga / Sims. On sait que sur Roblox, on était plus sur un truc Minecraft un peu plus carré.
Ouais.
Je sais pas.
Et sur Horizon, très rond, un peu comme ça,
oui,
très naïf
très
aussi.
Très oui, quoi. Ouais,
ouais, très oui. Non, est-ce qu'ils vont se connecter entre eux? Non. Est-ce que du coup on va assister à une guerre des métaverses? Sans doute, hein, comme il y a la guerre des plateformes. C'est intéressant cette histoire de NFT, puisqu'il s'agit de NFT, hein, j'imagine bien, pour Zara. Ça me pose quand même beaucoup de questions, hein, parce que la fast fashion, le principe c'est quand même des fringues quasi jetables qui ont une durée de vie de 30 jours. Hein. Un NFT c'est tout l'inverse. C'est un objet numérique qui a une durée de vie illimitée, avec l'intégralité de son historique, de transmission et tout. Alors je trouve ça étrange d'imaginer qu'une marque comme Zara ait une carte à jouer dans ce monde-là. À voir.
Alors, juste, je précise, j'ai pas vu de piste qui parlait explicitement de NFT. Ça peut être comme Vans dans Roblox où tu pouvais juste essayer un t-shirt.
Bien.
Donc, je ne suis pas sûr. Par contre, c'est pas exclure qu'il y ait des options NFT quand même. On en saura plus tard.
Ok, intéressant. Allez, moi, je vous emmène du côté de TikTok, les amis. Aujourd'hui, quand je parcours TikTok, eh bien, je bascule dans un flux ininterrompu de vidéos qui me sont proposées par un algorithme en fonction de mes centres d'intérêt. C'est ça le principe, hein, de TikTok. Et parmi ce tsunami de vidéos, eh bien, il y a de tout. Il y a du très mauvais, ça c'est une évidence. Et puis aussi quelques jolies petites pépites à garder pour plus tard. Sauf que voilà, c'est quasiment impossible aujourd'hui de retrouver une vidéo TikTok si on ne l'a pas immédiatement sauvegardée, en tout cas ajoutée à ses favoris. Et ça nous est tous arrivé, genre je scroll, ah ça c'est cool, j'y repense une heure plus tard, mais introuvable. Et bien justement, TikTok teste une nouvelle fonctionnalité pour parcourir l'historique des vidéos visionnées, une sorte de watch history, comme on peut avoir sur YouTube par exemple, hein, qui va te permettre de retrouver l'intégralité des vidéos que tu as visionnées au cours des 7 derniers jours, ce qui peut faire quand même beaucoup de vidéos quand on y pense. Alors pour le moment, cette fonctionnalité, elle est en phase de test. Il la teste sur un certain nombre d'utilisateurs. C'est vraisemblable, hein, qu'elle finisse par être disponible pour tout le monde, ce qui est plutôt cool. Parce que pour l'instant, pour visionner à nouveau une vidéo, il faut absolument qu'au moment où elle passe, eh bien, soit je l'ai ajouté à mes favoris, soit je l'ai envoyé à un utilisateur.
Ouais.
Soit je l'ai liké. Sur les likes, je peux la retrouver aussi.
Okay.
Donc, bon, c'est pas si évident que ça. Il faut avoir le réflexe immédiatement, on va dire.
Par contre, le risque, hein, comme tu dis, c'est que t'en as maté 200 le 7 janvier, là. Donc, tu vas retourner dans ton historique, tu la retrouves pas. Ou alors, juste avant de la retrouver, tu retrouves un truc cool et là, tu retombes dans une tendance.
Dans un trou.
Mais ok, bah, nouvel outil assez cool, hein, c'est vrai, ça manquait. Tu vois, j'ai jamais testé même la mise en favori, moi. Donc peut-être il y a des choses cool à faire côté TikTok. Moi, je vais te parler de Snapchat.
Vas-y.
Snapchat qui autorise l'intégration de vidéos YouTube, en tout cas de vignettes de vidéos. Une nouvelle fois, hein, Snapchat s'aventure sur un nouveau terrain de jeu et innove en permettant l'intégration de capsules vidéo YouTube sous forme de stickers ou de capsules donc dans ses stories. Pour ce faire, il faut accéder à la vidéo YouTube que vous souhaitez partager. Avec Snapchat, c'est toujours un peu geek, hein, la manière d'intégrer les trucs. C'est toujours un peu border, hein. Tu accèdes à la vidéo YouTube que tu souhaites partager, tu cliques sur le bouton partager, le share, et tu sélectionnes Snapchat. Donc, dans YouTube, il y a déjà un export possible vers Snapchat. Snapchat va s'ouvrir et la vidéo, elle va apparaître automatiquement dans ta story sous forme de vignette. Donc, la vignette, c'est l'image récap, hein, de YouTube, tout simplement. Et ensuite, tu peux jouer avec la taille de l'autocollant, le faire pivoter, le placer n'importe où. Tu as également le nom du créateur et le nom de la vidéo qui apparaît en dessous. Donc, ça fait quand même une pub directe à YouTube. Et c'est cliquable. Donc, tu peux la voir dans l'application YouTube qui
Par
va
contre,
s'ouvrir.
Par contre, pas d'autoplay dans ta
Snapchat. Pas d'autoplay. C'est un peu le truc. Quand j'ai vu cette actu, je me suis dit trop bien, mais en fait on n'est pas encore à l'autoplay.
Ouais, finalement ça ressemble exactement à ce que fait Spotify aujourd'hui. Tu partages une
exactement
pochette
avec une pochette de Spotify dans les stories Insta par exemple. C'est l'évolution d'une version précédente, hein, qui était plus compliquée, qui était compliquée à mettre en place, et c'était juste un lien cliquable avec une petite vignette, hein. Et je trouve que, enfin, on se l'est déjà dit plein de fois, ce qui se passe chez Snapchat, c'est jamais à prendre à la légère. C'est même la plateforme qui a beaucoup inspiré les autres, les stories, les filtres en réalité augmentée, les options de montage vidéo, l'intégration de tweets aussi. Il faudra pas s'étonner si on voit apparaître ça bientôt, le conglomérat avec YouTube chez ByteDance.
Pourquoi pas, bah, ça serait plus sympa que le petit lien sortant, tu sais, avec le sticker lien, ouais. qui ça y est déjà galvaudé.
Meta qui fait un cadeau, tenez, vous pouvez mettre des liens maintenant.
Ça serait cool. Ben justement, puisqu'on parle de Meta, moi j'ai envie de vous parler de Facebook ce matin, avec cette étude, hein, qui révèle que le ciblage par centre d'intérêt de Facebook serait en fait plutôt pourri. Et qui raterait, en tout cas qui serait inexact dans environ 30% des cas, ce qui est quand même beaucoup. J'ai trouvé ça très intriguant. Alors, je vais tâcher de vous expliquer, hein. Ça fait maintenant plusieurs années, on le sait, que le groupe Meta, il est sur la sellette pour son processus très complexe de ciblage d'audience, ouais. Le fameux algorithme Meta qui découvre, on va dire, tes centres d'intérêt en fonction de ton activité sur l'application ou même hors application, hein, grâce au Facebook Pixel. En gros, ils étudient, en tout cas ils espionnent l'intégralité de tes interactions pour découvrir et imaginer c'est quoi tes centres d'intérêt et ensuite les proposer en publicitaire aux annonceurs, en leur disant: tiens, tu veux des gens qui aiment la mode, eh bien moi j'en ai à ta disposition. Tu veux des gens qui sont intéressés par le sujet développement durable, j'en ai à ta disposition, hein. C'est un peu ça le principe. Mais une question qu'on s'est jamais trop posée, c'est: quel est le taux de précision réelle de ces options de ciblage? Eh bien, des chercheurs de la North Carolina State University, donc l'université de Caroline du Nord, pardon, se sont penchés sur la question. Ils ont fait un certain nombre de tests et le résultat est plutôt moyen, hein. Selon eux, le ciblage par centre d'intérêt de Facebook est inexact dans environ 30% du temps. Les chercheurs, ils ont créé une petite centaine de comptes, 140 comptes from scratch, hein, c'est avec aucun historique.
Okay.
Et du coup, ils les ont mis au test. Donc, ils ont créé des profils types, etc., etc., aux quatre coins du monde. Ils ont vraiment essayé. Alors, c'est 140 profils. Vous dites, c'est pas énorme, mais quand même 140 profils. En partant de zéro, tu peux commencer à avoir tiré des enseignements, hein. Et d'après cette étude, même la plus petite action peut entraîner une inférence dans ton profil de ciblage publicitaire. En gros, eux, ce qu'ils disent, c'est que Facebook a une approche trop agressive de la notion de centre d'intérêt. Je m'explique, c'est: tu fais défiler une page lambda sur Facebook, et immédiatement Facebook va déterminer que ça t'intéresse. Alors okay. Qu'il a juste fait défiler, tu vois.
C'est déjà sur la page, hein.
Exactement. Autre exemple, le système de Facebook fait pas la distinction entre les interactions positives et négatives, ou en tout cas mal. Et il donne un exemple très précis, c'est qu'ils ont, ils sont allés commenter une page de fans d'Harry Potter négativement, hein, en mettant des
Vous
remarques
avez
désagréables.
Tous l'air de con, truc comme ça.
Non, j'aime pas Harry Potter, j'ai jamais aimé Harry Potter, je comprends pas cette histoire de sorcier. Et ils ont reçu, eh bien, des publicités liées à Harry Potter et Daniel Radcliffe. En tout cas, en lien avec tout ça. Donc, eux, ce qu'ils estiment après test à la clé, hein, je vous mets le lien direct, hein, si vous voulez creuser, c'est que dans 30% des cas, les ciblages sont foireux.
Oui, bah voilà. Ouais, c'est pas surprenant. Après, on voit aussi en ce moment un recentrage des ciblages hein, sur Facebook Ads avec beaucoup de centres d'intérêt très précis qui disparaissent en fait. Et t'as une grosse bannière rouge qui s'affiche. Attention, ce ciblage a disparu. Etc. Bah,
ils ont notamment un gros problème qui est ce qu'ils n'ont pas craqué, c'est le changement de iOS, hein, la modification d'iOS et notamment des règles de ciblage possibles dans les applications sur iOS où aujourd'hui Facebook a perdu une bonne partie de stats, de data issues de nos usages sur iOS.
Bon, c'est une étude super intéressante parce qu'en vrai, on s'est toujours dit oui, ben forcément, on va cibler des gens qui aiment la moto, mais on s'est déjà jamais demandé à quel point ils aimaient la moto. S'ils sont allés sur une page de moto, bah, ils aiment la moto. Ça voilà, en tout cas, on s'est jamais posé la question.
Voilà, à quel point c'est juste ou pas juste.
Hein. Mais c'est pas surprenant. Et ben moi, je vais faire un lien entre TikTok, dont on parlait avant, et Facebook. Il y a 4 jours, le Washington Post sortait une enquête, une énième enquête sur Meta, le dossier Targeted Victory. Je sais pas si t'as vu passer ce truc-là. Hein. L'entreprise de Marquito aurait payé une agence américaine dénommée Targeted Victory pour ternir l'image de TikTok dans la presse. L'objectif était donc de relayer des histoires négatives sur son rival chinois dans les journaux américains. Dans des emails internes entre Facebook et l'agence, on découvre des choses comme le rêve, ça serait de voir publier des articles avec des titres du genre « Des danses au danger, comment TikTok est devenu le réseau social le plus nocif pour les enfants ». Donc l'objectif, c'était d'atteindre hein, ce coup de com'. Hein. L'objectif caché aussi était donc de donner mauvaise presse pour enterrer les Facebook Files ou alors l'enquête antitrust. Dans la ligne de mire, il y avait des tendances comme le ça m'a fait rire, je sais pas si tu les connais, Devicious Leaks, qui consistait à voler des objets dans son école, ou encore le Slap a Teacher Challenge, qui consistait à gifler son prof. Du coup, voilà, ils voulaient mettre le focus sur ces pratiques-là pour agresser TikTok.
Est-ce qu'on est surpris?
Non.
Bah, tout ça, c'est de la politique, hein, ouais. Ni plus ni moins. Donc,
Cuba,
effectivement. Et l'idée, c'est de dire, bah, vous voyez, il n'y a pas que nous hein, qui sommes au cœur des polémiques.
Ouais, c'est ça. Ça ne changera pas les procès en cours.
D'autant plus que le Slap a Teacher a fait du bruit quand même.
Ouais, non, c'est
On en a entendu parler jusqu'ici en France. Donc, bien joué, l'agence RP du groupe
Meta. Ça fait griller quand même. Hein.
C'est du bon boulot. Allez, moi, je vais vous parler d'Elon Musk. Elon Musk qui réfléchirait à créer son propre réseau social.
Étonnant que ce soit pas arrivé avant.
Parce que non content d'être le CEO de Tesla, de SpaceX, eh bien Elon Musk estime est aussi, on va dire, un peu le CM d'une communauté de pas moins de 80 millions de personnes. Il a 80 millions d'abonnés sur Twitter, Elon Musk. Et du coup, dernier coup d'éclat en date du CM d'Elon Musk lui-même, hein, c'était la semaine dernière. Tout a commencé avec un tweet de Musk qui dit « La liberté d'expression, c'est essentiel au fonctionnement d'une démocratie. Est-ce que vous pensez que Twitter adhère rigoureusement à ce principe ?» Donc, il questionne hein, ses 80 millions d'abonnés quand même. Est-ce que Twitter est démocratique ? Un tweet avec un sondage, hein, voilà. Et 70% des sondés ont répondu « non ». 70% ont dit « bah non, Twitter n'est pas démocratique ». Ça fait quand même beaucoup, hein, 70%. Et dans la foulée, bien, un internaute a alpagué Elon Musk en lui demandant s'il imaginait créer sa propre plateforme social media, une plateforme qui serait du coup dédiée à la liberté d'expression, peut-être open source, etc. Et le milliardaire lui a expliqué qu'effectivement c'était sur ses tablettes et qu'effectivement il réfléchissait sérieusement à cette idée. Donc intriguant, hein. Il faut dire quand même que la relation qu'entretient Elon Musk avec Twitter, elle est complexe depuis un bon petit bout de temps. En 2018, tu te souviendras peut-être que Elon Musk avait été contraint de signer un accord avec Tesla, sa propre boîte, hein, quand même, qui l'interdisait de tweeter sans la validation, sans être sous l'aval, on va dire, la supervision des avocats de Tesla. Donc en gros, il n'a plus le droit de tweeter sur le compte de Tesla sans avoir un avocat de la firme juste à côté de lui. Évidemment, lui, il a fait appel hein, de cette décision de Tesla et il a à chaque fois perdu. Donc il est plutôt vénère hein, sur le sujet de Twitter. Il veut continuer à utiliser Tesla pour dire des conneries. C'est intéressant parce que si Musk devait aller plus loin sur ce projet de plateforme sociale, eh bien, il rejoindrait le non moins célèbre et outrancier Donald Trump, hein, qui a aussi, lui, s'est inscrit dans une quête d'indépendance, de recherche de liberté d'opinion, on va dire, puisque Donald Trump a monté, ça a été annoncé plus tôt, mais en février réellement a été lancé sa plateforme sociale média indépendante qui s'appelle Truth Social que nous n'avons pas encore testé. Je ne sais pas si on le fera un jour, mais en tout cas, on n'a pas encore testé. Donc voilà, peut-être une tendance actuellement à venir, en tout cas, de voir émerger un nouvel acteur social media.
Donc si Elon Musk lance sa plateforme, demain, le métaverse est officiellement dans le monde entier en 3 jours. Quoi. Et un nouveau casque de VR à 200 euros.
C'est un risque,
quoi.
Ça peut aller vite. Ça peut aller vite.
Ça peut être. Et ça me fait rebondir sur un truc. J'avais vu une autre actu hein, que j'ai pas peaufiné, mais en gros, sur le processus électoral français et la démocratie, justement, sur Twitter, il y a beaucoup d'élus. En tout cas d'élus actuels, de ministres actuels qui commentent et qui mettent en avant un candidat ou l'autre, et notamment Macron, en disant « soutenez-le, il y a sa campagne, etc. » Et en France, il existe une charte éthique sur le processus électoral qui interdirait des candidats, qui interdirait des élus en poste de mettre en avant un candidat plus qu'un autre. Et c'est ce qui se passe actuellement sur Twitter. Et tout le monde dit « non, c'est pas vraiment écrit, c'est pas vraiment interdit. » Donc encore une fois, Twitter est un peu au milieu du processus électoral en France.
Et je propose d'ailleurs, tiens, pendant que j'y pense, que cette semaine on fasse un épisode dédié hein, au présidentiel. Ouais. Ça serait quand même temps, ça on va dire. Donc on va réfléchir. Quelle ombre on pourrait donner à tout ça.
En tout cas, il y a une piste là-dedans.
Les amis, un grand merci à vous. Merci d'être avec nous chaque matin. On est en direct sur Twitch quand ça marche. On est en direct sur Spaces tous les matins à 9h. Et puis vous écoutez ce podcast dans une application de podcast. Un grand merci à vous. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à balancer les 5 étoiles avec un commentaire. Et puis on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux.
Ouais, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest et Twitter aussi.
Merci à vous tous. Très très belle journée. Salut à tout le monde. Ciao et à demain.